en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Regard sur l'homme contemporain est le titre d'une série de trois colloques où juristes, scientifiques, historiens, philosophes et théologiens cherchent à mieux comprendre les comportements humains, les émotions, les sentiments qui se retrouvent à la jonction de toutes ces disciplines. Le premier colloque que vous retrouverez en deux parties sur le site de Canal Académie portait sur les conséquences des avancées récentes de la biologie qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre certains traits de notre individualité. Dans ce deuxième colloque, retransmis cette fois-ci en trois parties, toujours sur le site de Canal Académie, les intervenants s'intéressent à l'impact de la spiritualité et de la morale dans les comportements humains. Dans ce deuxième volet, retrouvez ainsi deux interventions, celle de Gérard Teboul et de Dominique Volton. Gérard Teboul est professeur, directeur du Master 2 Droit de la bioéthique de l'Université Paris-Est Créteil. Il revient sur la biologie, la morale et la règle de droit international. Dominique Volton est directeur de l'Institut des sciences de la communication au CNRS. Il s'exprime sur les contradictions et les idéaux de l'homme face à la communication humaine. On retrouve tout de suite Gérard Teboul.
Alors le thème sur lequel je dois parler est ainsi formulé, la biologie, la morale et la règle de droit international. Le droit porte une attention certaine à la biologie. Les relations entre la biologie et le droit ont généré de très nombreuses réflexions. Elles ont conduit à l'affirmation d'une discipline juridique nouvelle, le droit de la bioéthique. Ce droit peut être perçu de différentes façons et dans le cadre de mon intervention, j'envisagerai le droit de la bioéthique dans ses seules relations avec la biologie humaine et avec la médecine humaine. En d'autres termes, je n'évoquerai pas les questions relatives à la biodiversité et à la biosécurité. Bien entendu, pour nourrir leurs réflexions, les juristes sont attentifs aux travaux qui sont antérieurs à la naissance de leur discipline. Ils s'intéressent plus particulièrement aux relations entre la biologie et la morale. Et je rappelle à ce sujet que Claude Bernard eut des démêlés avec les sociétés protectrices d'animaux et que, beaucoup plus près de nous, en 1975, fut organisé à Washington un colloque réunissant des scientifiques, des théologiens, des historiens et des philosophes. Le thème de ce colloque était le suivant : y a-t-il des limites éthiques aux découvertes scientifiques ? Cette question, bien sûr, renvoie au point de savoir si la connaissance est, en tant que telle, un bien en soi. Et à cet égard, certains philosophes ont considéré qu'il y a lieu, pour répondre à cette question, de distinguer entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, telle que Max Weber la mise en évidence. Alors les juristes, par raison naturelle, sont évidemment intéressés plus encore par les liens entre le droit et la morale. Le droit et la morale sont liés l'un à l'autre car tous deux sont constitutifs de systèmes normatifs. C'est-à-dire qu'il existe des règles de droit et des règles de morale qui sont des règles obligatoires. Cependant, droit et morale s'opposent au regard des conséquences emportées par la nature des règles. En effet, en cas de manquement à la règle de droit, des actes de contrainte socialement organisés permettent, pour la sanction du droit, le recours à la force physique. En revanche, le manquement à la règle de morale ne s'accompagne pas d'actes de cette nature. Il s'accompagne simplement d'une désapprobation de la conduite contraire à la norme, une désapprobation purement sociale. Le droit et la morale doivent également être analysés au regard de l'application du droit. Les normativistes considèrent que respecter une norme juridique, c'est agir par essence moralement. Cela évidemment soulève des difficultés, car les normes ont un contenu. Or, le contenu peut varier selon les États. Il en résulte que respecter une norme juridique, c'est se comporter moralement relativement à l'ordre juridique au sein duquel existe cette norme. On voit ainsi apparaître l'idée d'une relativité des morales. Et à cet égard, une appréciation subjective concernant le caractère moral des normes juridiques étatiques. On a d'ailleurs une illustration très nette de cette situation dans le cadre de la gestation pour autrui. On sait qu'à l'heure actuelle, la gestation pour autrui est autorisée dans certains États et qu'elle est interdite dans d'autres États. Compte tenu de cette diversité des morales, il apparaît que la règle de droit international présente un intérêt certain. La règle de droit international, en effet, par nature, est unique. Et par conséquent, elle permet d'éviter les conflits entre les droits nationaux. Et son respect, par essence morale, permet d'éviter la relativité des morales. Certes, il est toujours possible de contester, au regard de la morale, la règle de droit international. Mais on fait œuvre de réflexion utile pour la lex ferenda. On ne fait pas œuvre de réflexion utile au regard de la lex lata, c'est-à-dire du droit positif. Quand on s'en tient au droit positif, qui est la seule perspective que je retiendrai ici, on peut alors envisager, au regard de la relativité des morales, la règle de droit international conventionnel, les règles internationales consignées dans une déclaration internationale, et enfin, la règle de droit international non écrite. En matière de bioéthique, le droit international conventionnel remédie imparfaitement à la relativité des morales étatiques. Sans doute, ce droit poursuit-il un objectif ambitieux. En 1986 déjà, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adopta une recommandation, la recommandation 1046, dans laquelle elle affirmait « Toute réglementation exclusivement nationale risque d'être inefficace, étant donné que toute activité en la matière pourrait se déplacer dans un autre pays ne prévoyant pas la même réglementation. » Ainsi, seul le droit international peut remédier à la pluralité, voire au choc des morales relatives. Et cette idée est à l'origine d'une convention, la convention d'Oviedo, sur les droits de l'homme et la biomédecine. En dépit de cette volonté, la convention de biomédecine n'a pas atteint son objectif. Elle présente en effet un caractère paradoxal et elle n'est pas pourvue en pratique d'un champ d'application universel. Son caractère paradoxal se manifeste d'abord sur le plan formel. Pour atteindre son objectif, la Convention d'Oviedo s'est efforcée de faciliter l'accès des États à la Convention. À ce titre, elle permet l'émission des réserves. Cette technique autorise les États à ne pas accepter la totalité de la Convention. En conséquence, elle ne place pas les États devant une logique de tout ou rien. À cet égard, elle invite les États à donner plus facilement leur consentement à être liés par la Convention. Cependant, cette technique, et tel est le paradoxe, empêche, si elle est mise en œuvre, l'applicabilité au sein des États de la règle conventionnelle. Il en résulte que le droit national trouve à nouveau à s'appliquer. Je précise, toujours sur le plan formel, que la Convention d'Oviedo contient une clause d'application territoriale. Cette technique permet aux États de ne pas appliquer la Convention dans certains territoires relevant de leur autorité. À nouveau, on est confronté au même paradoxe pour des raisons semblables à celles que je viens d'exposer. Mais le paradoxe apparaît aussi sur le plan matériel. Les États, on le sait, ont parfois des difficultés à s'entendre sur le contenu d'une règle conventionnelle. À cet égard, l'exemple de la recherche sur l'embryon in vitro est significatif. La Convention d'Oviedo ne tranche pas la question. Très habilement, dans son article 18, elle se borne à insister uniquement sur le cas relatif aux lois qui autorisent la recherche sur l'embryon. À ce sujet, d'ailleurs, elle affirme une règle générale. La loi doit assurer une protection adéquate de l'embryon. Mais la Convention reste muette. Elle est lacunaire concernant le cas dans lequel la loi interdit la recherche sur l'embryon. Et en restant ainsi muette, elle permet aux États d'interdire la recherche sur l'embryon. C'est ainsi que, à nouveau, la Convention présente un caractère paradoxal, car elle se propose d'unifier le droit, mais elle permet, par certaines de ses dispositions, la consécration d'une diversité des droits nationaux. Alors, en pratique, la Convention d'Oviedo n'a pas atteint le rang de l'universel. Cela apparaît d'abord très clairement en ce qui concerne les États membres du Conseil de l'Europe. Il existe à l'heure actuelle 47 États membres du Conseil de l'Europe. Et pourtant, 26 seulement ont consenti à être liés par la Convention d'Oviedo. Ce n'est que dans un espace géographique de 26 États que le droit de la biomédecine est globalement unifié. Et je précise que cet espace est limité en termes de population. Car ni l'Allemagne, ni la France, ni le Royaume-Uni, ni la Fédération de Russie ne sont partis à cette convention. Quant aux États non membres du Conseil de l'Europe, ils ont le droit aussi de rejoindre la Convention d'Oviedo. Mais aucun État non membre du Conseil de l'Europe n'est lié par cette convention. Un seul État a fait une demande, a obtenu l'assentiment des autorités du Conseil de l'Europe, mais par la suite, cet État n'a pas décidé de prolonger la procédure. Il en résulte qu'à l'heure actuelle, sur plus de 190 États dans le monde, 26 États seulement sont partis à cette convention, la Convention d'Oviedo. Ainsi, et de façon générale, on assiste à un dépassement très imparfait des morales relatives au maintien des droits internes qui sont juxtaposés avec les différences qui les caractérisent. J'en viens alors à la question des déclarations internationales. En matière de bioéthique, les déclarations internationales peuvent contenir des règles de morale universelle. Les États sont conscients des difficultés d'élaboration des normes conventionnelles dont je faisais état précédemment. C'est la raison pour laquelle ils ont recours aux résolutions déclaratoires. Lors de l'élaboration de la Déclaration universelle sur la bioéthique, un rapport affirma, sachant qu'un tel instrument doit être par nature générale et recevoir l'acceptation la plus large possible, le groupe de travail a considéré préférable dans un premier temps de partir d'un instrument juridiquement non contraignant. Ainsi, on constate que les résolutions déclaratoires ne pouvant pas obliger les États à agir sont préférées aux règles conventionnelles qui lient juridiquement les États. Mais alors, la résolution déclaratoire parvient-elle mieux que la Convention à unir les États et à unir les morales auxquelles les États sont attachés? À ce sujet, on peut observer que les résolutions déclaratoires, les déclarations, comportent des règles, c'est-à-dire des dispositions de caractère général et impersonnel, des droits et des obligations, prenant tous les États ou tous les individus pour destinataires. Mais ces règles peuvent présenter un caractère universel. Ce n'est pas toujours le cas. La déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur le clonage humain n'a pas obtenu l'assentiment de tous les États. Mais dans le cadre de l'UNESCO, en revanche, trois déclarations ont été adoptées à l'unanimité par acclamation. On peut observer que ces trois déclarations portent sur des thèmes fondamentaux. La Déclaration universelle sur le génome humain, la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines et enfin la Déclaration universelle sur la bioéthique. Ainsi, l'écueil auquel se heurte le droit conventionnel est cette fois évité. Les règles ne sont pas adoptées par un nombre restreint d'États. Cependant, quelle est leur force juridique? Quelle est leur valeur? Ont-elles une normativité? Elles ont sans doute une valeur. D'abord, une valeur subjective. Car les États sont attachés au terme des déclarations. En 1997, lors de l'élaboration de la Déclaration universelle sur le génome humain, le Canada s'est retiré du groupe de rédaction du comité d'experts gouvernementaux. Et, justifiant son retrait, il a affirmé « Les termes d'un texte d'une telle importance doivent être soigneusement pesés, ce qui suppose des méthodes de travail permettant un examen approfondi de chaque article et prévoyant suffisamment de temps pour le dialogue, la rédaction, la révision et l'adoption. » Cette attitude révèle que la déclaration n'est pas dépourvue de valeur subjectivement pour cet État. Autrement dit, cet État, subjectivement, n'assimile pas la déclaration au néant. Mais il se trouve que les déclarations ont aussi une valeur objective. Tout État membre de l'organisation internationale ayant adopté la déclaration a le droit d'en faire application. Le comportement d'un État qui agit conformément à la déclaration ne peut pas être tenu pour illicite. En effet, l'État membre, en agissant conformément à la déclaration, respecte l'acte constitutif de l'organisation. Dès lors, il apparaît qu'une valeur objective peut naître. Mais cette valeur, en réalité, n'est pas complète, car la déclaration, comme on le voit ici, n'est que permissive. Elle ne peut pas obliger l'État à agir contre sa volonté. Alors, y a-t-il quelque chose de plus ? Eh bien, je crois qu'on peut répondre à cette question de façon nuancée, mais de façon certaine. Il existe, dans certains cas, une valeur morale des déclarations. Sans doute, on ne peut pas donner de réponse de principe pour toutes leurs dispositions. Cependant, on connaît au moins un cas dans lequel la volonté de manquer aux dispositions d'une déclaration a fait l'objet d'une réprobation internationale commune et unanime. Au début des années 2000, on se souvient que certains avaient souhaité procéder à des activités en matière de clonage reproductif. Il y avait là une violation certaine de l'article 11 de la Déclaration universelle sur le génome humain. La communauté internationale tout entière a vivement réagi, et la France et l'Allemagne avaient d'ailleurs proposé que soit établi un traité prohibant le clonage. Comme on le voit ici, l'existence de la règle morale universelle est révélée par l'intermédiaire de la sanction sociale, la réprobation universelle. Il y a donc bien des effets réels produits par une disposition de la déclaration. On pourrait dire que l'auctoritas tient ici lieu de potestas. En d'autres termes, il y a place pour une autorité qui relève de la puissance et qui se substitue au droit. Alors qu'en est-il enfin des règles de droit international non écrites ? Eh bien, les règles de droit international non écrites ne parviennent guère à mettre fin à la relativité des morales étatiques. Ces règles de droit international non écrites en matière de bioéthique existent sans aucun doute. Elles se sont forgées au fil du temps et elles présentent une importance cardinale. Au nombre de ces règles, on trouve notamment le respect de la dignité humaine, la liberté de la recherche, la confidentialité, la non-discrimination et la règle du consentement éclairé. Ces règles de droit international non écrites, en première analyse, paraissent très adaptées au dépassement des morales relatives. En effet, par rapport aux déclarations, elles présentent un avantage. Ce sont des règles de droit, alors que les déclarations peuvent tout au plus être des règles de morale. D'autre part, par rapport aux conventions, elles présentent un avantage. Elles sont universelles, alors que les conventions, on l'a vu, réunissent difficilement les États. Cependant, les règles de droit international non écrites en matière de bioéthique se heurtent à trois difficultés. D'abord, ces règles ne sont pas très nombreuses. En d'autres termes, de nombreux domaines du droit de la bioéthique ne sont pas envisagés par le droit international non écrit. Il en résulte que les États agissent dans ces domaines sans être contraints par des règles de droit non écrit. D'autre part, les règles de droit international non écrit sont très générales. Ce sont des règles qui sont par conséquent mal adaptées à la prise de décision concrète, au cas par cas, par les spécialistes de biomédecine. On connaît seulement un cas où l'efficacité peut être réelle. C'est le cas dans lequel il y a, par la règle de droit non écrit, une prohibition. Et à ce sujet, il faut observer qu'un rapport de l'Université des Nations Unies, en 2007, a considéré que l'interdiction du clonage reproductif appartient au droit international coutumier. Enfin, il faut dire que les règles de droit international non écrites naissent principalement, qu'elles soient coutumes ou principes généraux de droit, du rapprochement des droits internes. Il en résulte que les droits internes étant convergents, il n'y a pas de divergence entre les droits nationaux et donc pas de confrontation entre les morales relatives. En d'autres termes, la règle de droit international non écrite ne contribue pas à unifier des droits nationaux divergents, elle est au contraire le produit de leur convergence. Alors en conclusion, je voudrais dire d'abord qu'il est certainement difficile d'établir des règles internationales universelles qui permettent de transcender la coexistence des morales relatives. Mais je voudrais ajouter deux questions. La première question relève de la philosophie morale. La coexistence des morales relatives est-elle un mal en soi ? Deuxième question, qui elle relève de la prospective, existe-t-il une structure possible de la société internationale qui permettrait d'élaborer plus facilement des règles de droit universelles ? En réponse à cette question, je voudrais citer un propos qui a d'ailleurs été évoqué ce matin par M. de Saint-Chéron. Il s'agit du propos d'Anna Arendt qui affirmait, je cite, « Souviens-toi que les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover, pour s'ouvrir à la naissance et à la renaissance. » Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.
Gérard Teboul s'exprimait sur la biologie, la morale et la règle de droit international. Laissons tout de suite la place à Dominique Volton, directeur de l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Il s'exprime sur les contradictions et les idéaux de l'homme face à la communication humaine.
Je vais essayer de résumer ce qui m'obsède depuis bientôt plus de 35 ans. Nous avons une extraordinaire évolution de l'information et de la communication depuis le XVIIe siècle qui monte et qui est parallèle au mouvement de l'émancipation de l'individu, parallèle à l'ouverture de la société, parallèle à l'événement de la démocratie. Donc ces deux concepts ont été cousins germains pendant des siècles. Et la question théorique, politique, culturelle, humaine, morale qui se pose aujourd'hui depuis, en gros, vers la fin du XXe, tout ça, ça ne se date pas à 10 ans près, c'est la rupture entre information et communication et le fait que les destins vont de plus en plus différents. C'est ça la question la plus compliquée probablement pour la paix et la guerre du XXIe siècle, mais question dont on parle très peu, très peu. Parce qu'entre l'information et la communication, qui sont deux questions théoriques essentielles, il y a l'immense progrès des techniques de communication et qui fait que ça fait 100 ans que nous courons après le progrès. Téléphone fin 19e, radio début 20e, télévision dans les années 30, ordinateur dans les années 40, les réseaux dans les années 80. Donc en moins d'un siècle, la totalité des conditions de communication interpersonnelle, sociale et mondiale ont changé. Donc le monde entier passe son temps à supposer que les questions de communication seront de plus en plus simples puisque les techniques sont de plus en plus performantes. Et donc cette espèce de progrès formidable des techniques empêche d'aborder la question théorique de la disrupture entre information et communication. Pendant des siècles, informer, c'est communiquer. Il n'y a pas beaucoup de messages, il n'y a pas beaucoup de récepteurs, il n'y a pas beaucoup de techniques. La rupture entre l'information et la communication, elle vient en fait pendant le XXe, avec ce progrès technique dont j'ai parlé, qui fait qu'en fait on peut produire beaucoup plus vite un beaucoup plus grand nombre de messages, distribuer beaucoup plus rapidement un beaucoup plus grand nombre de destinataires. Et là voilà la rupture. C'est-à-dire qu'entre la production de l'information, la distribution de l'information et la réception, il y a ce volume. Et émerge un personnage auquel on n'avait absolument pas pensé, qui s'appelle vous et moi, qui s'appelle le récepteur, qui en gros, au fur et à mesure qu'il est assaillé par un plus grand nombre de messages, va se mettre à résister poliment, silencieusement. Et donc c'est ça la question théorique qui est devant nous. Informer ne suffit plus à communiquer, nous sommes face à des millions d'informations et encore on nous en bazarde de plus en plus avec la numérisation et les bases et les banques de données. Et en fait l'être humain, l'être social, l'être politique, l'être culturel, ne peut non seulement pas absorber, mais n'a pas envie, ne veut pas, ne peut pas. Et quand on a fini avec ça, on nous bazarde Facebook avec 500 millions, et c'est formidable. D'ailleurs, j'ai une juste petite parenthèse. Le génie d'Internet, ça a été de dire on est quand même un progrès extraordinaire par rapport aux médias de masse, qui était une formidable standardisation, parce que dans la radio, dans la télévision, ça concerne des millions de gens, tandis que nous, c'est la communication individualisée. Et vous remarquerez que dans la stratégie de com, de tout ce qui tourne autour d'Internet, on n'arrête pas de dire... Je voyais ça à la réponse hier soir. Ah bah, il y a 3 millions d'entreprises qui viennent de passer sur Google. Ah bah, ça y est, Facebook, ce matin, 500 millions, etc. etc. On m'a dit, on n'arrête pas de se féliciter du plus grand nombre de gens qui vont utiliser de plus en plus des nouvelles technologies. Mais si finalement ce nombre rejoint exactement le nombre des médias de masse, il va peut-être falloir changer de catégorie d'analyse. 6 milliards et demi sur Terre, nous sommes. 5 milliards et demi de postes de radio. 4 milliards et demi de postes de télévision. 3 milliards de téléphones portables. 2 milliards d'ordinateurs. Donc la question qui m'intéresse, c'est la suivante. Il n'y a plus de rapport entre l'information et la communication. Le plus simple, c'est évidemment, c'est le message. La communication, c'est le plus compliqué parce que c'est la relation. Et la relation, c'est qu'il y a deux individus, deux cultures, deux sociétés. Donc c'est le début du désordre. La métaphore, on peut la faire très bien. Je te dis que quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un d'autre qui s'en fout, qui n'écoute pas et qui n'est pas d'accord. Et quand là, par malheur ou bonheur, la personne répond, la première personne s'en fout, n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, si je puis dire, l'incommunication, c'est l'horizon de la communication. Nous en avons toute notre expérience dans la vie privée. Ou mieux, la phase de fusion, qui est la phase amoureuse. Entre 2 heures et 6 mois. Après ça, les destins commencent à se séparer. Il y a deux solutions. Ou bien on comprend qu'on n'a rien à se dire. Ciao, bye bye. Et on recommence avec le suivant. Ou bien on se met à négocier parce que la fille ou le mec, c'est pas mal. Bref, on se dit ça vaut peut-être le coup de tenir un peu. Et donc progressivement, on rentre dans le cœur de la communication, de ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la communication? C'est de la négociation pour essayer de sortir de l'incommunication. Alors cette mécanique, il m'a fallu des années pour arriver à simplifier à ce point-là. Ou peut-être que je ne suis pas très futé ou que c'est compliqué comme sujet, mais c'est très compliqué. Et donc nous faisons tout ça dans notre vie privée, et c'est ce qu'il y a de mieux. Un couple qui dure, une famille qui dure, c'est de la cohabitation. D'ailleurs, vous avez bien vu qu'on négocie avec des gosses à partir de l'âge de 10 ans. Jusqu'à 10 ans, ça va à peu près. Après, c'est que de la négo. On fait ça dans nos couples, on fait ça dans nos familles, on fait ça dans nos entreprises, on fait ça dans un État-nation, on fait ça dans l'Europe, c'est la grandeur de l'Europe. Et on fera un jour dans la mondialisation si on arrive à l'organiser. Donc ce concept de communication, c'est un concept politique et pas un concept technique. Vous pouvez avoir tous les ordinateurs, tous les réseaux, vous pouvez mettre tout ce que... Il y a un bon nombre d'ordinateurs entre la Palestine et Israël, il n'y a aucun problème. Et je pourrais continuer tous les exemples de guerre civile ou de guerre religieuse ou de guerre politique. Ce n'est pas les techniques qui font que les hommes arrêtent de se faire la guerre. C'est quand ils ont décidé d'arrêter de faire la guerre, donc quand ils passent de la technique à la politique. Mais comme la performance technique est extraordinaire et qu'elle ne cesse de s'améliorer, on n'est qu'à voir, on nous vend déjà le iPad 3e génération en attendant le 4e. J'espère que vous en avez acheté 12 parce que bon. Et on court après la technique comme des espèces de fox terriers. Et comme évidemment, elle est de plus en plus séduisante, interactive. Alors pourquoi cette séduction pour la technique ? Pour moi, j'ai une raison ontologique extrêmement simple. C'est que nous butons très vite sur la communication. Il suffit de regarder un bébé avec ses parents, etc. Et là, le mouvement de libération des hommes, des femmes, enfin ce immense mouvement depuis le 17e, se traduit par quoi ? On est libre, donc on parle, donc on essaie de se faire comprendre, donc on essaie d'aimer, donc on essaie de partager. Et ça cause, et ça cause, et ça cause. Et c'est plutôt mieux de causer que de ne pas causer. Et évidemment, ça ne marche jamais, donc on en relance, on relance. Vous allez voir le nombre de milliers d'heures qu'on passe tous avec des techniques de communication. Et je pense qu'il y a un ratio entre cet homme émancipé qui se cherche et qui du coup n'arrive pas à dire à l'autre ce qu'il veut et qui s'en fout réciproquement, etc., et le prodige des techniques. Au moins ça marche, et ça marche drôlement bien. J'envoie un mail, on me répond, enfin, l'illusion de la communication. Donc, il y a deux mouvements qui se croisent et qui sont évidemment antinomiques, c'est un, l'émancipation de l'homme et la démocratie derrière font que c'est de plus en plus difficile de se comprendre parce que personne ne renonce à son identité, à ses valeurs, à sa religion, à son système de représentation symbolique, etc. Mais par contre, on a des techniques qui nous permettent d'envoyer un mail en 20 secondes, une image qui fait le tour du monde, etc. Donc on dit quand même, les techniques, c'est extraordinaire. Quant aux difficultés de la communication humaine, de la communication interpersonnelle, elles seront sûrement résolues par des techniques. Et nous passons des heures et des heures dans des technologies. Un homme et une femme ordinaire passent 4 à 5 heures devant une bécane. Quand ils sortent dans la rue, ils se bardent de trucs-muches pour surtout pas entendre le bruit de la réalité. Et quand par hasard, il découvre quelque chose qui l'intéresse, il sort son téléphone portable et il fait des photos. Ou alors il a un petit numérique. Si bien que finalement, nous n'avons aucune expérience directe avec la réalité. Mais nous avons une médiatisation extraordinaire. Donc, un, première bataille, détechniciser la réflexion théorique sur la communication. Deux, comprendre que la communication, c'est un enjeu politique, pas au sens strict du terme, au sens large, c'est-à-dire à quelles conditions des hommes peuvent-ils s'entendre quand ils sont d'accord sur rien, ce qui est quand même la définition de toute société. Et l'enjeu de la communication, c'est l'incommunication. En fait, communiquer, c'est négocier. Et quand la négociation se termine bien, ce qui va du couple à la mondialisation, eh ben on cohabite. Et ce concept de cohabitation, qui n'est pas un beau concept, quoi. Déjà que le mot communication est détesté, mais alors le mot cohabitation, encore pire, ça fait cheap. C'est en fait un concept essentiel, parce qu'il suppose quoi, la cohabitation ? Reconnaissance de la liberté et de l'égalité mutuelle, acceptation de l'altérité, et négociation pour se mettre d'accord sur un SMIC. Un SMIC. Et qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est 50,01 qui vote pour Dupont, pour 49 qui se tue pas en face, en attendant que Dupont remplace Martin réciproquement. Et je ne dis pas ça de manière péjorative. Il a fallu des siècles pour y arriver, parce qu'en gros, la tradition humaine, c'est je te tue quand je ne suis pas d'accord avec toi. Et ce qu'on continue à faire néanmoins. Mais ce que je voulais mettre, et ça remplit exactement les objectifs de la séance d'aujourd'hui, c'est une dimension individuelle, une dimension morale, une dimension sociétale, et une dimension politique. L'angoisse que j'ai, si vous voulez, elle est simple, c'est que ça fait 30 ans que je hurle cette question-là et qu'elle n'est pas entendue parce que la performance des techniques est plus forte. Et donc l'idéologie technique est un tsunami exceptionnel. Et dire que la communication, ce n'est pas une question technique, que c'est plus compliqué que l'information, que c'est plus compliqué que le message, ça ne passe pas, y compris dans mon institution, où il m'aura fallu 30 ans, j'ai gagné, mais je n'ai pas 25 ans, pour convaincre le CNRS que l'information et la communication, c'est une des plus grandes questions du XXIe siècle. À mon avis, c'est une question plus compliquée que l'environnement et l'écologie au sens large. Parce que les hommes étaient tout à fait d'accord pour bousiller la planète, ça ne pose aucun problème, c'est les générations derrière qui... Mais au bout d'un moment, bon, justement, c'est les générations qui font appel. Et en fait, on se met d'accord sur l'écologie parce qu'il y a un tiers-lieu entre la violence des hommes. C'est quand même la nature, on essaie de faire gaffe. Comprendre que la communication, c'est la paix et la guerre de demain, c'est beaucoup plus difficile parce que nous n'avons pas de tiers-lieu. Nous sommes face à face, les sociétés, les cultures, les religions, les idéologies. Et dans un monde ouvert, qu'on ne refermera plus jamais, saturé de technologies dans tous les sens, toutes plus interactives les unes que les autres, on a du mal à comprendre que les technologies ne vont pas nous permettre de nous connaître ou de nous accepter. Et cependant, les faits depuis 30 ans, nous l'avons le village global de McLuhan. J'ai sorti un bouquin à 2 ans. McLuhan ne répond plus. J'ai fait une erreur majeure parce que j'ai cru que les gens savaient qui était McLuhan. Les choses vont tellement vite maintenant. que plus personne ne savait qui était McLuhan. Et j'aurais dû mettre une petite note sur quel était ce chercheur canadien. Donc c'est vous dire, tout va tellement vite qu'on oublie tout. Donc nous l'avons, le village global technique de McLuhan, mais il ne correspond à aucune réalité. Par contre, l'enjeu, c'est la mondialisation et la communauté internationale, ce dont on parlait quand je suis arrivé, c'est-à-dire la norme de droit, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est cette espèce de lente bataille pour la normativité des choses qui fait que, est-ce que les hommes accepteront un jour? Et quelle est mon angoisse? Je la reprends. Information et communication sont des concepts d'émancipation depuis le 17e. Et ce sont des concepts indépendants de la technique. Ils ont eu comme idéal et comme pratique, en fait, de rapprocher les points de vue. Le drame serait qu'au XXIe siècle, avec encore plus de techniques et encore plus de monde ouvert et un tout petit monde dont on ne peut pas sortir, information et communication, au lieu de rapprocher les points de vue, d'ouvrir le dialogue, deviendraient des facteurs de haine. Pour une raison très simple, c'est que le progrès technique nous permet de voir beaucoup plus vite l'altérité. Et l'autre, je n'ai pas envie de le voir de trop près. Et là, maintenant que j'ai omniprésent dans mon ordinateur, mon poste de télévision, ma rue et compagnie, et donc la question qui m'intéresse, c'est à quelles conditions va-t-on pouvoir faire comprendre que cette visibilité accrue du monde, donc des différences, donc de ce qui nous menace tous, donc déjà qu'on se tue entre nous quand on se ressemble, bah oui, c'est comme l'histoire du monde, il n'y a aucune raison qu'elle change. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on serait tolérant avec ceux qui n'ont pas notre gueule, notre religion, notre odeur, notre système de valeurs. L'actualité, ce n'est pas la peine que je la reprenne ce matin. Donc la question politique qui m'intéresse, c'est à quelles conditions va-t-on pouvoir construire la distance qui sera suffisante pour qu'à la fois il y ait une connaissance mutuelle minimale, un effort d'intercompréhension. Et le décalage, il est énorme entre la vitesse et la performance des systèmes techniques et l'extraordinaire lenteur qu'il faut pour que les hommes se tolèrent et s'acceptent. Donc la question de la tolérance et de l'acceptabilité, c'est une question centrale. Et plus on sera visible, plus on aura Port Moresby tous les matins dans sa salle de bain. Je prends ça parce que c'est à peu près l'endroit le plus éloigné. On n'y va pas passer tous les 15 jours des vacances. Mentalement, je veux dire, culturellement. Eh bien, à quelles conditions faudra-t-il mettre Port Moresby à bonne distance pour qu'au lieu de créer du rapprochement, ça ne crée pas de la tolérance? Prenez le cas de l'Europe. Nous sommes les sociétés multiculturelles les plus ouvertes. Nous n'avons rien à nous dire. Nous sommes 27 pays, 500 millions, une exceptionnelle réussite. 26 langues sur 27 pays. L'exemple le plus extraordinaire d'un projet politique pacifique et démocratique pour essayer de rapprocher des gens qui n'ont rien à se dire. Et ça marche. Lentement, mais ça marche formidablement bien. Mais nous sommes tous tentés par la tentation sécuritaire, le reflux du Rhum, le reflux de l'immigré, etc., etc. Europe, la partie du monde la plus démocratique, celle qui a le plus fait les massacres, celle qui a le plus réfléchi sur qu'est-ce que c'est que l'autre, à quelles conditions, est elle-même prise aujourd'hui dans ce phénomène de reflux identitaire, de refermement. Donc si nous, les Européens, nous n'arrivons pas à gérer cette question de l'altérité qui est chez nous, vous imaginez bien qu'au niveau mondial, ça va être encore plus difficile. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment éviter qu'en définitive, cette extraordinaire performance technique, au lieu de permettre progressivement un peu plus de tolérance, soit en fait un accélérateur d'intolérance parce que l'autre, on ne le supporte pas. Quand il nous ressemble, c'est déjà vrai. Quand il ne nous ressemble pas. Alors cette question, pour finir, elle se joue au niveau interpersonnel. Regardez la difficulté que nous avons à accepter l'altérité dans nos relations affectives, sexuelles, relationnelles, familiales. Elle se joue au niveau des États-nations. Pas facile de sortir du communautarisme qui est toujours séduisant. On me dit, qu'est-ce que c'est qu'une société? C'est bien la gestion des différences. C'est pour ça que le modèle démocratique est exceptionnel, parce qu'il a fallu des siècles pour le poser. Et il existe. En gros, on ne tue pas celui qui n'a pas voté comme moi. On attend qu'il prenne ma place, etc., etc. On négocie. Dans une démocratie, c'est des milliards d'heures. C'est un temps perdu constant de négociation. Ah oui. Et d'ailleurs, dans le bon racisme qu'on avait à l'égard de l'Afrique noire, on disait, oh, ou de l'Afrique en général, putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à palabrer. C'est le colonialisme dans ses grandes heures civilisatrices. Disait toujours, ils sont bien, ils sont intelligents, mais putain, qu'est-ce qu'ils palabrent? Mais je dis, ok, c'est quoi l'ONU? Si c'est pas à 100% de la palabre. Ça palabre tout le temps pour éviter la guerre. Et la palabre, c'est un système de négociation politique. C'est parler pour ne pas se tuer. C'est ce qu'on fait tous, on nous coupe nos familles. Il n'y a rien de pire quand il n'y a plus que le silence qui s'installe. Mieux vaut les cendriers qui volent que les silences installés. C'est vrai au niveau des États-nations, je l'ai dit, c'est vrai au niveau de la mondialisation. Le problème, c'est que les techniques vont plus vite que la capacité de comprendre l'autre. Et surtout à accepter sa différence. Donc voilà, la question de la communication, c'est une question politique, c'est la question de l'altérité. Son horizon, c'est l'incommunication. Alors trois mots qui sont tout le temps utilisés pour synonyme de communiquer, qui ne le sont pas, c'est transmettre. Communiquer, ce n'est pas transmettre. C'est techniquement le cas. D'ailleurs, dans l'étymologie du mot, vous avez le mot, l'origine chrétienne, naturellement, partager l'amour, c'est ça. La question de la communication, après laquelle nous courons tous, toute notre vie, c'est la question de l'amour qui est derrière le mot de la communication. Y a-t-il quelque part quelqu'un qui m'aime? C'est ça qu'on recherche tous dans la communication. C'est-à-dire qu'ils m'aiment, donc qu'ils me comprennent, donc qu'ils m'écoutent. Le problème, c'est que si tout le monde parle, qui écoute? Et nos sociétés sont exactement dans les sociétés dans lesquelles tout le monde parle. La définition, j'ai quelque chose à dire. Ok, mais l'autre s'en fout. Alors, on s'en fiche parce qu'il y a autant de tuyaux qu'un individu, à la limite. Donc, tout le monde s'exprime. Mais, si je puis dire, l'expression, c'est la première condition de la communication. Après, il faut prendre le temps de la réception, le temps de l'incommunication, le temps de la négociation, et c'est tout le temps du retour. Parce que si par malheur l'autre répond, on a envie de raconter sa vie, mais on n'a pas envie que l'autre raconte la sienne, c'est classique. On est tous intéressés par notre expérience. L'autre, on s'en fout. Mais je le dis banalement, à Paris, 5e, 6e, 8e, même en banlieue, c'est pareil. Hein. Donc la tentation, c'est naturellement l'isolement dans des communautés de plus en plus étroites, où là, on a le même code, le même vocabulaire, etc. etc. Mais ok, on s'enferme à ce moment-là dans une communauté. Et la communauté, c'est l'opposition de la société. Donc, s'exprimer, c'est pas communiquer. Transmettre, c'est pas communiquer. Et interagir, c'est pas communiquer. Les ordinateurs interagissent extrêmement bien. On leur envoie des informations, etc. Donc, ce sont trois mots qui sont proches des nôtres, mais qui ne sont pas des mots. La communication, elle ne commence qu'en quelque part. La négociation a commencé entre l'émetteur et le récepteur. Et si je puis dire, ce n'est pas seulement de la communication langagière, parce que je vois Berthaud, ça peut être de la communication gestuelle, ça peut être de la communication visuelle. C'est pour ça que la généralisation de l'image au niveau mondial ne fait que compliquer les choses, parce que personne ne contrôle ce qui se donne à voir dans notre image, mais le récepteur décode quelque chose. C'est pour ça que la télévision, et avant elle le cinéma, sont d'immenses facteurs d'ouverture. Et nonobstant, la peur, vous savez, la grande peur, ça a été, avec la radio et avec la télévision, c'était les médias de masse vont être des facteurs de standardisation, parce que le même message envoyé à tout le monde de la même manière sera naturellement reçu de la même manière, donc ce sera un facteur de standardisation. Et tout le monde avait peur de la manipulation dans l'exemple du fascisme italien et du fascisme allemand. Évidemment, la grande découverte positive que nous avons depuis 60 ans, mais dont tout le monde se fiche, c'est que le même message envoyé à tout le monde n'est jamais reçu de la même manière. L'immense diversité des récepteurs fait que quelque chose passe en commun, quelque chose d'autre. On réaménage constamment ce qu'on reçoit. Et donc c'est cette liberté critique du récepteur, qui est en général quelqu'un de bien élevé qui ne dit pas grand-chose, mais qui n'en pense pas moins, qui fait que justement, la communication est difficile, mais la difficulté de cette communication, c'est aussi ce qui sauve la liberté. Parce que si ce même message adressé à tout le monde de la même manière par les médias de masse avait eu le même impact, là, on aurait eu un vrai problème, c'était ce que craignait l'école de Francfort. À juste titre, ils avaient été payés d'expérience à partir de 33, et même 25-27. Donc ça veut dire qu'en définitive, on doit comprendre que l'incommunication est l'horizon de la communication, et que si on veut vraiment qu'un message passe, il faut beaucoup de difficultés. Moi, je prends un exemple, on dit tout le temps la publicité, c'est de la manipulation. C'est pour ça que tout le monde déteste la publicité, en la regardant d'ailleurs. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les recherches prouvent que, une fois de plus, le récepteur, vis-à-vis d'un message qui est très bien fait, parce qu'il coûte cher, donc il est court, une forme de plaisir, de séduction. Et puis si finalement, on achète l'Alpha 144 ou 138 ou 172 vanté par Alpha, c'est parce que finalement, on a envie de se la payer et qu'on peut se la payer. C'est pas sûr qu'on ait été manipulé par le... etc., etc., pour le... Oui, le désir de l'homme, ça existe. On n'est pas des êtres rationnels, sinon ça se saurait quand même. Et puis mieux vaut qu'on ne le soit pas. J'adore cette phrase de Poincaré. Comme elle vient de Poincaré, on peut la dire, le mathématicien. C'est avec la logique que nous prouvons, avec l'intuition que nous trouvons. Bon, comme je suis fondamentalement un chercheur, ça me plaît tout à fait. C'est le bordel cognitif est la condition de la recherche intellectuelle. Les désordres, c'est pour ça que je m'excuse pour tout à l'heure. Mais alors, dernière chose. Le monde académique porte une responsabilité écrasante dans le fait de n'avoir pas réfléchi sur la complexité du concept de communication. Parce que nous n'aimons pas la communication, nous ce que nous adorons c'est transmettre. Et je ne dis pas seulement ça sur le modèle pédagogique qui est beaucoup plus compliqué que la transmission, mais en gros le monde académique il considère que finalement quand il y a quelque chose à dire, les gens ont intérêt à l'écouter. On a quand même plutôt raison, on est plutôt, c'est bien connu, du côté de la vérité, de la connaissance, du savoir et de la gratuité. On n'a qu'à voir les rapports sociaux de force entre les communautés intellectuelles pour comprendre que c'est la paix qui nous anime. Sans parler de l'Église où il n'y a qu'amour. Et respect d'autrui, c'est bien connu. Donc on est dans cette situation où le monde académique, au lieu de réfléchir à ça, il a d'autant moins réfléchi qu'il a été pris à contre-pied par l'arrivée des médias de masse, et il n'a vu dans les médias de masse, à tort, qu'une concurrence. Et on a eu cette contradiction qui dure encore aujourd'hui, entre le fait qu'en gros le monde académique dans le monde est plutôt progressiste, donc aurait dû être favorable à l'arrivée progressive de la démocratie de masse, donc aurait dû être favorable à ce que représentaient les médias de masse, ne l'a pas été parce que ce monde académique a cru qu'il était menacé par elle, pas du tout. Et la culture académique est probablement la seule culture mondiale qui marche très bien. Autrement dit, Beethoven s'achète aussi facilement à Singapour qu'en Allemagne, qu'en Suisse et ailleurs. Notre culture élitiste reste mondiale. C'est la seule, hélas. Et même si elle a reçu les contre-coups des industries de la culture et de la communication, elle tient. Bref, nous avons cru que nous n'avons pas disparu. Et au lieu de penser la question de l'altérité au travers des médias de masse et de la culture de masse, nous avons en gros condamné. Et nous avons hélas applaudi beaucoup trop avec séduction et facilité avec l'arrivée d'Internet et des technologies en disant tout ce qui était collectif était mauvais, mais tout ce qui était individuel est génial. et le monde académique aurait dû être le premier à soulever les contradictions de représenter que représente la généralisation des systèmes d'information interactifs, n'a pas développé d'esprit critique, parce que c'était ce qu'il aimait bien faire. Et nous avons même été plus loin. Puisque nous utilisions pas mal d'ordinateurs, eh bien nous avons été l'objet d'une immense campagne de com' mondiale implicite, dont nous ne sommes pas pleins, qui consistait en gros à poser cette équation fausse. Les chercheurs et les universitaires sont des gens très intelligents, on n'était pas mécontents. Puisqu'ils sont sur des ordinateurs, c'est qu'il y a un lien direct entre le système d'information et l'intelligence humaine. Et ce paradigme s'est progressivement imposé, et nous avons servi de caution, je m'excuse de le dire devant un aéropage qui appartient au même univers académique que moi, nous avons servi de caution à des industriels qui ont vendu des tuyaux. Et nous avons dit que ces tuyaux sont formidables. Et nous n'avons pas développé. Par contre, sur la lutte des classes, sur la religion, sur la politique, sur Dieu, sur la démocratie, ça, on en fait des tonnes de réflexions critiques. Mais sur ce que représentaient les systèmes d'information par rapport à la production de la connaissance, par rapport aux théories de la connaissance, par rapport aux industries du même nom qui risquent de nous broyer un jour, par rapport aux limites de l'interactivité technique, par rapport au système cognitif humain, par rapport aux affects, par rapport aux sentiments, par rapport au désordre de la pensée, de la création, de l'amour, de tout ce qu'on veut, de ce qui fait une société ce qu'elle est. On a même dit, si tous les profs étaient sous ces ordinateurs et si tous les élèves étaient sur les ordinateurs, ça changerait le système pédagogique mondial. On n'arrive pas à dire qu'il ne faudrait pas ça. Donc c'est un bon exemple, si vous voulez, parce qu'on parle toujours des autres, de la société des mauvais, des politiques. Et ben oui, mais là, l'adéquation qui s'est faite entre intelligence et système d'information, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de rapport. Et on est parti sur les bases des banques de données, on est passé, pour finir sur un exemple simple, l'enjeu de la numérisation. Dans n'importe quel autre secteur, les trois groupes industriels mondiaux qui ont des tailles de concentration gigantesques, on ne l'accepterait nullement, ni dans le nucléaire, ni dans l'alimentaire, ni dans la pétrochimie, ni rien. Et nous, dans les industries d'information et de la communication, on dit, mais oui, Google-les-nous, numérisez-nous le plus vite possible. Parce que quand on sera tous numérisés, vous allez voir, il y aura une explosion de la connaissance. Donc quand on m'a dit, on est des agents objectifs, même pas rémunérés, d'une campagne de com mondiale pour penser que les systèmes d'information seront la condition de la renaissance de la liberté de l'homme et que naturellement, au bout de tout ça, nous nous comprendrons mieux. Vous avez compris que je commençais par la communication, je finis. Voilà, c'est ce paradigme-là qui est un peu léger et que nous devrions être les premiers à mettre en cause. Je vous remercie de votre attention et de votre adhésion.
C'était Dominique Volton. Son intervention portait sur les contradictions et les idéaux de l'homme face à la communication humaine. Il s'exprimait avec Gérard Teboul dans le cadre du deuxième colloque « Regard sur l'homme contemporain » qui avait lieu en novembre 2010 à l'Institut de France. Restez à l'écoute de la retransmission de ce colloque et téléchargez les deux autres volets. Vous y retrouverez sur Canal Academy les interventions de François Gros, Bérénice Tournafon, le père Bernard Cesboué, Michael de Saint-Chéron, Jean-Robert Armogat et Alain Berthoz. Pour tout savoir sur les colloques passés et à venir, vous pouvez consulter le site www.hommecontemporain.org. Vous pourrez notamment commander les actes du colloque et vous inscrire pour de prochaines conférences. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.